Et les injustices dans notre société contemporaine, une émission qui favorise la parole des victimes prioritaires. Alors, certaines personnes ne savent peut-être pas que vendredi passé, le 5 avril, sur la place Émilie-Gamelin, au centre-ville justement de Montréal, plusieurs personnes se sont donné rendez-vous. Pourquoi, à votre avis? La réponse est en réaction à la répression de plusieurs manifestations récentes ici au Québec, et plus particulièrement à Montréal. Des centaines de personnes sont venues sur cette place publique afin d'exprimer leur désaccord contre le P6, un règlement municipal adopté en mai dernier suite à des manifestations étudiantes qui ont déstabilisé, ont mis fin, si vous voulez, au pouvoir de l'ancien gouvernement et nous précisons l'abus du pouvoir de l'ancien Premier ministre Jean Charest. Alors, je vous rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, qu'une manifestation, c'est un rassemblement du peuple afin de s'exprimer et de donner son opinion collectivement. L'État devra, et je dis bien devra, garantir et protéger en tout temps ce droit fondamental de société. Alors, les manifestations étudiantes du printemps 2012, c'est une manière très forte et efficace pour livrer un message de mécontentement de la classe étudiante en premier. C'est une voie très sage qui a apporté des changements à notre société. Puis, il y a manifestement des personnes qui ont de plus en plus moins, si vous voulez, satisfaits, et d'autres qui ont vu l'effet du poids de la démocratie qui les a stoppés, ou plutôt qui a mis fin à leur folie. Et de là, nous pouvons voir, par exemple, la naissance de certaines lois martiales, hein, comme la loi 78 décrétée par l'ancien gouvernement, une réponse trop abusive et une atteinte injustifiée aux libertés fondamentales. Voilà pourquoi la première ministre, Mme Pauline Marois, avait abrogé cette loi afin de ramener la paix sociale et rétablir les droits et les libertés. Alors, n'oubliez pas aussi qu'on affiche comme une société, hein, nous affichons comme une société soi-disant moderne et modèle. Alors maintenant, le règlement, le P6, il s'agit d'un règlement adopté par le comité exécutif de la ville de Montréal, sont dans des moments, je dis bien, je précise, dans des moments de perturbation politique. Hein, ça veut dire ça s'était fait trop vite. Alors, résultat, un autre échec politique. Donc, ce règlement utilisé injustement pour limiter et à quel point et aussi à quel prix aussi le droit de manifester sous prétexte d'assurer l'ordre et la sécurité publique. Bref, ce règlement ne tient plus la route. Un règlement qui rend toute manifestation illégale à Montréal sans la divulgation d'un itinéraire soumis au préalable aux forces policières par les organisateurs. Donc un règlement qui restreint le droit de manifester ainsi que l'utilisation des espaces publics sur le territoire ou sur le terrain, si vous voulez, le territoire aussi de la ville. Donc il y a visiblement dans ces mesures un problème et un vrai problème. Alors, il faut reconnaître aussi que les manifestations ici à Montréal sont devenues un rituel, donc ce qui traduit, et je le répète, l'échec politique d'un gouvernement à un autre. Encore bref, rien ne semble fonctionner comme il faut. Donc un juge avait écrit dans le passé, il est difficile d'imaginer un droit plus important que le droit de s'exprimer dans une démocratie. Ce droit a été au centre d'un très grand nombre de jurisprudences. Autrement dit, d'une manière ou d'autre, il n'y a aucune loi qui peut interdire le droit de s'exprimer individuellement, ou collectivement. Alors nous vous rappelons, chères auditrices, chers auditeurs, qu'une manifestation est un droit fondamental. Elle est également un acte collectif qui se prononce en faveur ou en défaveur d'une opinion politique. Si vous voulez, c'est un contre-pouvoir légitime. Et n'oubliez jamais que la liberté d'expression conditionne la liberté de la pensée. J'espère que vous comprenez à quel point c'est grave d'interdire à quelqu'un ou un groupe d'exprimer ses opinions. On parle ici d'un droit fondamental sans frontière aucune. Alors d'abord, celles et ceux qui ont adopté le P6 n'ont apparemment pas suffisamment pris du temps avant d'adopter un tel règlement, et je partage l'idée de ce groupe de juristes progressistes qui a réagi en disant que ce règlement viole la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique. Il ajoute le plus important, que ce règlement n'est pas justifié dans le cadre de notre société démocratique. Alors, vous devrez comprendre très bien, chères auditrices, chers auditeurs, quand un porte-parole de la SPVM dit et publiquement que la Charte des droits et libertés protège le droit d'expression, mais il n'y a pas de droit de manifester. Nous avons un problème sérieux. Nous sommes en face d'employés de l'État qui appliquent les lois, mais sans connaître la signification même du mot « s'exprimer ». La question devient maintenant, est-ce qu'il faut vouloir à ces abrutés, ces ignorants, ou plutôt à ceux qui les ont engagés, autrement dit, est-ce que l'État trouve son compte avec les cloches qui interprètent, si vous voulez, la loi au niveau de la reconnaissance, ou bien nous sommes livrés à des idiots pour être définitivement humiliés? Alors justement, notre invité ce matin est encore un ancien policier qui a préféré de se retirer de ce corps qui décrit comme une machine exploitée sans conscience aucune. Et entre l'emploi et l'honneur, il a opté finalement pour le second choix. Chez lui, c'est le principe qui a eu le dernier mot. Donc un ancien policier qui va peut-être, on va voir, il va nous parler de son parcours arrivant à cette manifestation du 5 avril dernier qui a été déclarée illégale par le service de la police de la ville de Montréal, avant même son déclenchement réel. Vous allez voir avec mon collègue Richard Adam, qui a participé à cette manifestation contre ce règlement. Il va nous parler sûrement de ce déploiement impressionnant de policiers sur le lieu. Il va aussi nous parler aussi de cette séquestration planifiée d'avance et finalement les contraventions abusives qui étaient distribuées vulgairement pour tous les manifestants sans exception aucune. Alors je précise que nous sommes honorés aujourd'hui par la présence et la participation de monsieur René Forger. Alors à cette émission, un homme qui a pu être tout sauf un policier. Pourquoi ? À cette question, je laisse le soin à M. Forger de nous répondre. Voilà donc au micro ce matin avec vous, Hadj Zitouni, porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les abus du pouvoir. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs, après notre thème musical, la population face à l'abus de l'autorité, ou bien qui peut nous enlever le droit de manifester ?
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune. Les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déporté. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène, est à la lune.
Alors voilà, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, j'ai aujourd'hui en face de moi un ex-policier. Alors, vous savez que la dernière semaine, on a eu Monsieur Alfredo Mignoz, qui a participé à une émission. Et à son tour aujourd'hui, on a vraiment Monsieur René Forger. Alors, je pense que la plupart des gens le connaissent très bien. Bonjour Monsieur René Forger.
Bonjour Monsieur Zitouni. Voilà,
merci bien d'avoir répondu à notre invitation.
Ça me fait immensément plaisir.
Et moi, j'étais vraiment impressionné avec tout ce que j'ai lu. Peut-être la première question, qu'est-ce qui vous a amené de faire une carrière au corps policier?
En fait, moi, je descends d'une longue ligne de policiers. Mon grand-père était policier.
Ah, c'est la famille.
Oui,
ah,
oui, oui, mon père était policier. C'est quelque chose...
Il y a une conviction, là.
Il y a une conviction. Ouais, quand je suis rentré dans la police, c'était pour rendre ce monde meilleur.
C'était l'idée, là.
Oui, c'était l'idée.
C'est l'héritage, si vous voulez.
Exactement.
De la famille. Alors, et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché?
L'histoire courte, j'ai travaillé dans un petit village au Lac-Saint-Jean, un petit village qui avait même pas suffisamment de population pour justifier l'existence d'un corps de police, selon la loi de police de l'époque. Et dans ce corps de police-là...
Ça, c'est au début de la carrière?
Non, c'est à la fin de la carrière.
À la fin de la carrière, OK.
C'est ça. J'ai malheureusement été de ceux qui ont connu les postes temporaires avec les clauses orphelines dans les conventions collectives. J'ai fait de la police d'été. Mais je suis arrivé au Lac-Saint-Jean et à un certain moment donné, mon chef il vient me voir et me dit « T'es en retard dans tes quotas. »
Tu es en retard?
Dans
les quotas?
Dans les quotas, exactement.
Ouais, OK.
J'ai dit, bien sûr, il y a un stop dans la ville, il n'y a même pas quatre coins. Tu veux que je donne quoi comme ticket? Ouais. Fait qu'il me dit, donne des tickets de vitesse. Je dis, boss, quand tu m'as engagé, tu savais que j'étais pour opérateur radar. J'ai pas le droit de donner des tickets de vitesse. Je peux pas opérer le radar si je fais condamner des citoyens sur la base d'une preuve que je peux pas appuyer.
Ben,
ça devient une fraude.
Ben, tout à fait.
Ouais. Ouais. Il me dit, fais-toi-en pas. Il dit, donne l'étiquette. Si le citoyen conteste, on le cancellera. S'il ne conteste pas, on fait 100$.
My God.
Fait que j'ai fait comme non. J'embarque pas là-dedans. Mm-hmm. Et là, la guerre a pogné entre lui puis moi parce que ça a été à tous les jours. René donne l'étiquette. Non. René donne l'étiquette. Non. René donne l'étiquette. Envoie-moi Nicolas. Fais-moi suivre le cours. Non, j'ai pas le 3000$. Ben, tough luck.
Monsieur Forger, oui. Normalement, c'est lui qui va partir, c'est pas toi.
Ben, techniquement, mais tu sais, j'étais jeune. J'avais 23 ans. J'avais pas connu grand-chose de la vie. Puis, j'ai pas eu le réflexe de l'arrêter. Puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a couleuvré. Il a fait une couleuvre. Et un matin, je me suis réveillé. Puis, j'avais plus d'emploi. Puis, il avait monté une espèce de dossier contre moi, de ressources humaines, pour m'intimider. Puis là, ben la discussion, c'était bien simple. C'était, tu t'en vas sans crier, puis on te laisse tranquille, ou tu commences à crier, puis on détruit ta carrière. Ce qui s'est passé, c'est que je suis parti sans crier, puis on détruit ma carrière, pareil.
Mais une chose que je comprends pas, pourquoi vous avez pas pu se défendre? Vous savez comment il y a des
Ah non, non, je me suis défendu. Là.
Ouais,
je les ai poursuivis. J'ai fait beaucoup d'argent hors cours. Là. J'ai eu des règlements hors cours. Ça a payé, d'ailleurs, l'École nationale de l'humour, puis ça m'a permis de vivre pendant une dizaine d'années.
On va parler un peu de l'humour après, oui.
Et je tiens juste à remarquer, vraiment, c'est que la ville où le corps policier se mettait... volontairement ou consciemment en position illégale, alors qu'il s'agissait que d'une technicalité, c'était de donner une formation à monsieur pour que la situation soit légale, soit légitime et que tout rentre dans l'ordre. C'est complètement un non-sens. C'est... Et en faisant ça, ben, ce que tu confirmes, c'est que ça leur a coûté plus cher au final que la formation. Que...
Tout à fait.
Tout à fait.
C'est complètement absurde, mais c'est au final, c'est le contribuable qui paye encore.
Oh, définitivement. Oh, là, puis,
personne n'est servi là-dedans.
C'était honteux de la manière dont ça se passait. Là. Tu sais, je veux dire, puis c'était un petit village. Là.
Ouais,
à la fin de ma période d'embauche, j'étais rendu tellement cynique avec mon patron.
Ouais.
À un certain moment donné, j'ai attrapé au vol quelqu'un qui avait commis une infraction, puis je suis allé voir le boss. J'ai dit, regarde, c'est un de tes conseillers municipaux, là, ça fait-tu partie des choses qui sont normales chez vous, qui sont pas normales ailleurs, ou bien je peux faire ma job?
Oh my God.
Puis je te jure, là, c'était vraiment là, la police, c'était un corps de police politisé.
Oui.
Techniquement, il n'était même pas supposé exister.
Oui.
Puis, tu sais, je veux dire, des commandes illégales, on en avait, là. Tu sais, donner des tickets à ceux qui viennent de l'extérieur de la ville, mais donner des breaks à ceux qui sont dans la ville.
Mais, M. Fourgé, vous êtes d'accord avec moi sur le fait que si des gens qu'on vous honnête à ce point-là vont faire fin à leur carrière, ça veut dire qu'ils laissent aux autres qui sont moins, peut-être, je dis moins honnêtes, rester. C'est-à-dire, vous ne contribuez pas vraiment à... Vous n'avez pas lutté assez pour rester ou demeurer dans votre poste parce que la société a besoin des personnes comme vous.
Je reçois ce que vous dites, je vais vous réajuster ça.
Oui.
La perte de ma carrière n'a pas été mon choix. Ça m'a été imposé.
Oui, c'est ça.
Par la suite, ça a créé un paquet de problèmes de santé. J'ai subi un choc post-traumatique, avec ça. Ma glande thyroïde a arrêté de fonctionner. J'ai engraissé jusqu'à 550 livres. J'ai eu des problèmes avec ça.
Oui.
Ceci étant dit, à l'époque... on parle quand même, la fin de ma carrière, c'est en 98, là. C'est dans un autre siècle.
Oui.
Oui,
c'est ça. Tu sais, fait que, à l'époque, quand que je disais que, les postes temporaires contrevenaient à la Charte des droits parce que ça compromet l'indépendance judiciaire des policiers.
Tout à fait.
Quand je disais que les quotas de tickets étaient illégales, quand que je disais que, le monde m'écoutait pas. L'establishment m'aurait en pleine face.
Mm-hmm.
Puis la population était pas prête à recevoir ça. Et là, tranquillement, pas vite, on a une série de scandales qui sortent, les 100 scandales qui ont affligé les libéraux l'an passé. On a des maires qui perdent leur job. On se rend compte que...
Il y a un problème.
À chaque fois que tu payes un ticket de 100$, il y a 30 à 40$ qui s'en va dans les poches de la mafia. Il y a un problème.
C'est la même version qu'on a eue, malheureusement, la semaine passée. Hein?
C'est ça. Fait que le monde commence à se rendre compte qu'il y a un problème. Et là, bizarrement, le message que je porte depuis 15 ans commence à être reçu. Fait que c'est pas tellement que j'ai lâché le combat, c'est que là, je commence à être entendu, je commence à être écouté. Puis là,
vous
là
pensez
je commence
que,
à avoir
c'est-à-dire, vous pensez que votre rôle aujourd'hui est plus efficace que d'être dans le corps de policier, quoi?
Qu'à l'intérieur d'un mur, certain. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, intéressante. J'ai été contacté récemment par un policier de SPVM qui veut évidemment garder l'anonymat et qui m'indique sur Facebook que communication privée, qu'il est tout à fait d'accord avec ce que je fais et il endosse à 100% mes propos. En jasant avec lui, je me rends compte qu'il y a un phénomène qui est vraiment très intéressant. Si un enfant au secondaire subit de l'intimidation, on lui dit d'en parler à ses professeurs, on lui dit d'en parler aux policiers.
Ouais.
Et présentement, dans le SPVM, les policiers qui ne seraient pas d'accord avec les pratiques subissent de l'intimidation.
Ça, on sait.
C'est incroyable. Là. Je veux dire, on parle d'un groupe d'individus qui sont supposés être orientés vers le droit, orientés vers la protection du plus faible.
Ouais.
Et c'est un groupe qui... je vais utiliser un anglicisme, là, ils font du bullying. Ils intimident ceux qui réfléchissent un peu différemment.
C'est-à-dire, vous devrez être avec nous ou contre nous?
C'est à peu près ça, ouais, c'est ça.
Voit le même attitude d'intimidation envers la population également, justement, mais de manière peut-être plus ouverte, justement, parce que là, ça se fait à l'extérieur des murs.
Tout à fait, tout à fait.
Puis c'est pas propre au SPVM aussi. On a vu des cas documentés au niveau de la SQ.
Oui.
Je dirais les corps policiers en général, c'est assez connu que c'est soudé serré, c'est tissé serré. C'est pas nécessairement une mauvaise chose considérant le type de métier qu'ils font ou est-ce qu'ils sont exposés à des dangers, des choses de même. Il faut qu'il y ait un sentiment de solidarité entre eux, si on peut comprendre ça. Mais il faut pas que ça aille au point d'endosser des actes qui vont à l'encontre des lois qu'ils sont supposés faire protéger, faire respecter.
Mais là, je vais aller plus loin dans cette réflexion-là parce que vos auditeurs ne connaissent pas ça. Mais vous vous souvenez certainement de 728. 728 va nous être servi prochainement là, comme un bouc émissaire. Ils vont la passer comme un cas d'exception et malheureusement...
Ils vont la sacrifier
pour le public.
Le mot juste,
Mais le problème, c'est qu'elle ne fait pas partie des exceptions, elle fait partie de la règle. Au SPVM, il y a, dans le processus d'embauche, il y a un test psychométrique. Et il y a des centaines d'individus à chaque année qui reçoivent une lettre leur disant « On regrette, on ne peut pas procéder à votre embauche. Votre profil psychologique ne répond pas à ce qu'on recherche. » Autrement dit, on est dans une situation où ce que un employeur ne peut pas faire de profilage racial, il ne peut pas faire de profilage sexiste, il ne peut pas faire de profilage en vertu de l'orientation sexuelle, mais il se permet de faire du profilage psychologique. Autrement dit, c'est quoi le profil psychologique qu'on demande pour les policiers? Ben, présentement, je suis obligé de vous dire, ils cherchent des yes-men qui donnent des étiquettes, puis qui réfléchissent pas, puis qui font ce qu'on leur dit.
C'est des robots, quoi.
Oui, et malheureusement, le constat que je fais, c'est que la plupart des policiers présentement croient, dur comme fer, qu'ils font la bonne chose.
My God,
ils sont convaincus qu'ils font la bonne chose.
Ouais.
Et je suis convaincu, c'est pour ça que mon message commence à circuler un peu, c'est que je suis convaincu que la solution, c'est pas la force, c'est l'éducation.
Absolument.
L'ironie, c'est que ça a tout commencé autour des problèmes d'éducation. Et l'ironie, c'est que si on avait des policiers qui étaient tous des bacheliers en droit, par exemple,
On
aurait moins de chances que ça arrive. Des situations comme ça. Si on encourageait nos policiers à continuer à s'instruire, parce que la formation de base, premièrement, est inadéquate et insuffisante, mais il n'y a pas de formation continue vraiment. Tu sais, je veux dire, combien de fois on parle des policiers qui, un coup, ont leur badge, ils se laissent aller, puis deviennent obèses, puis... Mais c'est parce qu'il n'y a pas de formation continue sur la formation physique, mais il n'y en a pas non plus sur les droits. Il n'y a pas de réflexion qui est faite, tu sais, comme P6, par exemple, c'est une ignominie, là.
On va revenir à ça. Okay. Mais j'aimerais savoir, à propos, vous dites, je parle un petit peu, les policiers comme paramilitaires, hein.
Oui.
Eux, ils reçoivent des ordres.
Oui.
S'ils reçoivent des ordres, il est obligé d'exécuter l'ordre. Alors, vous reprochez que le policier devra avoir une certaine attitude pour dire les choses de bon sens, hein, si je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Alors, dans le fait, il n'y a pas d'affaire à... Il est là pour exécuter des ordres.
Alors là, il faut que je vous reprenne sur cette notion-là.
Oui.
Les policiers ne sont pas couverts par une loi martiale ou la loi militaire et le lien de subordination n'est pas le même.
Oui.
L'article 26 du Code criminel dit clairement que le policier est criminellement responsable de la force qu'il utilise.
Oui.
La force qu'il utilise, c'est pas juste donner une tape sur la gueule, là, ça peut être aussi donner une étiquette. Okay?
Oui.
C'est une force que tu as utilisée. Si tu utilises une force qui est illégale, ben, tu commets une infraction criminelle. Donc, quand un policier est reconnu coupable d'un voie de fait, ben, il est
une force excessive,
un voie de fait, un voie de fermé, il est susceptible de perdre son travail. Le lien de subordination est là, c'est vrai. C'est vrai que c'est une circonstance atténuante. Sauf que, syndicalement parlant, okay, si un policier reçoit son arme à feu est défectueuse, puis que son superviseur lui dit, ben, va sur la route pareil.
Mais ça, c'est protection. Il peut refuser, je crois.
Il va faire un refus syndical.
Il peut pas?
Oui,
il peut refuser, mais c'est normal. Ça.
Oui, tout à fait. Mais c'est la même chose avec, c'est la même chose avec un règlement. Quand un règlement que tout le monde l'a décrié, là, tous les juristes du Québec, la Charte des droits de la personne, la Commission des droits de la personne, l'ONU, tout le monde est descendu dans la rue pour dire ce règlement-là contrevient à nos lois.
Oui.
Ben, si tu l'appliques pareil, tu fais ce qu'on appelle de l'aveuglement volontaire. L'aveuglement volontaire, c'est une participation à une infraction. Tu t'aveugles au fait que c'est illégal. Et là, ben, à mon sens, à moi, puis il va falloir que le comité de déontologie se prononce là-dessus, mais à mon sens, à moi, c'est un abus de pouvoir. C'est là que moi, si j'étais encore policier, puis comme disait, tu vas donner, on va faire une souricière qui d'ailleurs a été jugée illégale par la Cour supérieure en Ontario. Si on me disait, tu vas faire une souricière, puis après ça, tu vas donner une étiquette, je dirais à mon boss, non, je signe pas ça. C'est ce que j'ai fait au lac Saint-Jean.
C'est ça ce que je me demande. Ça veut dire qu'ils vous ont demandé d'aller donner des tickets. Alors, vous devrez normalement continuer à donner des tickets et après ça, revenir pour vous comprenez ce que je dis? Vous avez reçu un ordre, vous pouvez continuer et vous pouvez revenir sur ça.
Mais il est là le problème.
Oui.
Il est là le problème. C'est que là, tu as 4500 policiers à Montréal qui ferment les yeux puis qui font quoi ce qu'on leur dit.
C'est ça, exactement.
C'est ça
qui nous cause le vrai problème. Là.
Tout à fait. Puis celui qui oserait faire ça va être ostracisé comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Oui. Alors, je reviens
sur... pourtant, si je veux juste... je peux me permettre sur ce sujet-là.
Je vous en prie. Oui.
Moi, mon point de vue par rapport à ça, quand que j'ai l'occasion de l'amener, comme vendredi dernier, j'étais dans la souricière.
On va vous venir.
Suivre les ordres, Ça a été l'excuse favorite de la plupart des officiers, des soldats nazis après la Deuxième Guerre mondiale, oui, lors du procès de Nuremberg.
Ça, c'est l'extrême.
C'est l'extrême cas. Mais oui, ça a été retenu que suivre, oui, les ordres n'était pas une défense.
Exactement. Je suis d'accord avec vous, mais j'essaie de voir
donc,
un petit peu dans le
même principe.
Dans l'esprit de la police, là, c'est un petit peu.
Suivre, ouais, les ordres n'est pas une excuse valide pour contrevenir à la loi qu'ils sont censés protéger.
Oui.
Si moi, je travaille comme pompiste à une station d'essence.
Oui.
Puis j'adopte un comportement dangereux avec je manipule des objets en feu proche des stations d'essence.
Oui.
OK, j'ai un comportement criminellement responsable, OK? Si mon patron me demande d'aller foutre le feu au réservoir d'essence, oui, OK, j'ai pas refusé, c'est pas parce qu'il m'a donné l'ordre que je vais aller le faire, c'est la même situation. Oui. On est en position, on a le droit de refuser de faire
mais
un ordre.
Mais vous parlez des limites, mais lui il nous parle des conséquences. Alors il y a des conséquences, je sais,
mais c'est on parlait tantôt d'un esprit de corps, d'un esprit de solidarité, oui, ben oui, déjà s'il y aurait au lieu d'avoir peut-être des cas isolés au sein du SPVM qui essaie de se rebeller contre ce mouvement-là, s'il pouvait déjà avoir un esprit de corps,
oui,
pour faire...
Oui.
Mais là, bon...
C'est trop difficile.
Je ne suis pas connaissant de ce qui se passe à l'intérieur.
Alors, j'aimerais bien revenir, M. Forger, on profite de l'occasion, vous avez écrit une lettre ouverte, mm-hmm, aux policiers.
En fait, j'en ai écrit plusieurs.
Oui, mais là, c'est la première avec vous. Avec
la toute première, oui.
La toute première que tout le monde... Là, on commence à connaître qui est M. René Forger. Alors, quel est le message, le fond du message que vous voulez passer aux policiers? Vous voulez tendre la main à ces policiers-là?
Oui, tout à fait. En fait, ce que j'essaie...
Une conciliation?
Ben, en fait, j'essaie de les resensibiliser au fait qu'ils ont... Ils ont fait un choix dans la vie. Ils ont choisi de devenir policiers. Ils ont choisi d'améliorer notre population,
oui,
notre société. Ils ont choisi de protéger nos droits. Dans la mission de la police, c'est écrit clairement, là, on, oui, doit sauvegarder les droits. À ce moment-là, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de leur rappeler c'est quoi être un policier. C'est pas d'exécuter des ordres, c'est pas de donner des coups de matraque. Il n'y a pas d'honneur à donner des coups de matraque.
Mais cette leçon-là, ils n'ont pas eu ça dans l'école de la police?
Oui, mais... Rendu sur le marché du travail,
oui,
c'est difficile.
Ils oublient tout ce qu'ils ont appris.
Ça arrive souvent, mais comme je vous disais tantôt, il y a, oui, un problème au niveau de la formation continue.
Oui.
Vous devez certainement vous souvenir de l'histoire de Richard Barnabé.
Oui, 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 tout à fait.
Bon,
oui,
pas que je veux nécessairement rouvrir cette plaie-là.
C'est un exemple, il y a plusieurs.
Mais
hein, ouais.
Ce que moi je retiens, c'est qu'on est quoi, là, 15, 20 ans plus tard,
oui,
et il n'y a toujours pas de formation continue.
Oui.
Il n'y a pas de démarches qui ont été prises par le SPVM concrètes,
oui,
mises publiques,
oui,
pour dire ben, on a pris telle et telle et telle action pour s'assurer que ça n'arrive plus.
Le rappel, oui, oui, je comprends.
Comprenez-vous ce que je veux dire?
Oui, tout à fait, exactement.
C'est les lettres que j'écris.
Oui.
Ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, il y a des policiers qui vont faire comme « Oh mon Dieu, c'est vrai ».
C'est un éveil, quoi.
Tu sais, j'ai perdu ça. Ben oui, mais la société est en train de s'éveiller.
Exactement.
Et techniquement, la police représente la société. Fait que techniquement, là,
oui,
il y a la même portion. On est 8 millions au Québec, il y a à peu près 100 000 personnes qui manifestent. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a au moins une cinquantaine de policiers qui sont en train de se réveiller. Mais ils sont, tu sais, ils sont juste 50, fait qu'ils n'osent pas encore parler.
Mm-hmm. Oui, oui.
Comprenez-vous ce que je veux dire?
C'est là que je parlais qu'à un moment donné, il y aurait avantage entre eux autres à se regrouper pour...
Exactement.
Pour ne plus se sentir seul et isolé, justement, chacun dans leur coin, parce que c'est ça, c'est encore une minorité. Puis...
Oui.
C'est à ça que je voulais en venir tantôt.
Oui. On va juste revenir un petit peu, parce que c'est long comme débat, mais c'est intéressant. Mais j'aimerais juste, M. Adam Richard, revenir avec vous. Vous avez assisté le 5 avril passé, ce vendredi. Vous avez assisté à cette manifestation qui est contre le PC.
Hein? Cette manifestation-là, officiellement, le thème, parce que là, on n'a plus vraiment besoin de raison pour aller manifester, mais c'était... Pour le droit de manifester, tout simplement.
Contre le PC, pour le droit de manifester. Exactement, c'est bien dit.
Alors, on réalise-tu l'ironie d'une manifestation?
C'est ça, voilà. Mais on va parler de vos côtés humoristes aussi,
ça,
M. René.
C'est
intéressant.
Délicieux comme ironie.
Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui vous a amené de cas très particuliers à se foncer dans l'humour? Hein? L'humour, c'est une réponse aussi politique. Pour vous, Adam, comment vous nous exposez? Comment ça a été passé? Vous avez participé. Je sais que vous avez reçu aussi une contravention de $637.
Absolument.
Alors, dans quel climat s'était passé cette
manifestation? Je vais mettre un peu comme en préambule de dire que cette manifestation-là du 5 avril a résumé, a contenu en elle-même tous les débordements récents qu'on a observés depuis, entre autres, le 15 mars. On a réuni tous les éléments, mais on a atteint encore comme des nouvelles étapes.
C'est l'accumulation de tout ça, oui.
Donc, cette manifestation-là, en tant que telle, est emblématique par rapport aux limites qui viennent d'être franchies.
Ouais.
Parallèlement à ça, depuis le temps, on a vu, là, il y avait des règlements 78, EP6 et tout ça. Bon, à un moment donné, c'était le fait d'être masqué qui était mis en vigueur. Donc, présentement, je vois dans les manifestations, il n'y a plus personne qui est masqué. À un moment donné, c'était les objets contondants, OK, les bâtons pour tenir les pancartes.
Il n'y a plus de pancartes maintenant.
Il n'y a plus de pancartes, OK. Donc, les manifestants eux-mêmes s'enlèvent des tous les prétextes que le SPVM essaie de leur mettre. Présentement, le prétexte, maintenant, c'est l'itinéraire. Itinéraire que même si on leur remet, le SPVM se garde le droit de le refuser. Donc, les gens qui disent « Ah, ils devraient en remettre un, ils devraient... » C'est pas aussi simple que ça, c'est des prétextes. Là. C'est... La prochaine chose, ça pourrait être un autre prétexte.
Mais Richard, ce que, Adam, ce que j'ai bien compris, que la dernière fois, tout était planifié, ce que j'avais...
Oui, ben c'est ça, j'allais en venir.
Oui, oui, oui.
La manifestation comme telle était prévue pour 18h. Moi, je suis arrivé à 17h. Déjà, à 17h, sur place, il y avait des médias. Télévision et radio, donc CKUT était sur place avec une émission en direct. Il y avait pratiquement personne autre que les médias sur la place Émilie-Gamelin. C'est encore.
Alors, le rassemblement a commencé à se réunir.
Le rassemblement a commencé vers 17h30, tranquillement, pas vite. Moi, entre-temps, j'ai suivi une personne qui a été identifiée sur Internet comme étant possiblement un indique, un informateur. Donc, j'ai pris le temps de le suivre un peu, voir son modus operandi. Ce qui m'a amené à faire le tour du quadrilatère au sud du parc Émilie-Gamelin.
Ouais.
Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment des dizaines de voitures de police déjà stationnées.
Des autobus aussi,
toute la force constabulaire qui vient avec, qui était comme juste en retrait, en arrière. Il n'était pas visible de la place Émilie-Gamelin, mais il était en stand-by.
Ouais.
Et j'ai même pu capter des bribes de conversation où les agents se tenaient prêts entre eux autres pour quand c'était pour commencer. De 17h30 à 18h, les gens commençaient à arriver sur place, à se regrouper sur le parvis et sur le parc Émilie-Gamelin comme tel.
Ouais.
À 18h pile, le dispositif policier s'est mis en place, a bouclé les intersections aux quatre coins du parc Émilie-Gamelin avec des voitures de police et des cordons policiers. Et à ce moment-là, ils ont proclamé immédiatement la manifestation
illégale.
Comme étant illégale.
Oui, oui.
Alors qu'il n'y avait pas de manifestation comme telle, il y avait juste des gens qui se rassemblaient et sur le parc. Donc, il n'y avait absolument personne sur la voie publique en tant que telle.
Et sinon, sur le parc, ici, sur le parc.
Sur le parc, sur le parvis, là, vraiment dans le parc Émilie-Gamelin.
Oui. Ceux qui ont perturbé, finalement, ce que vous êtes en train de me dire, ceux qui ont perturbé la circulation, c'est les policiers.
C'est les policiers parce qu'ils ont tout de suite déployé un dispositif qui a immédiatement bouclé le quadrilatère. Il n'y avait plus aucun trafic automobile qui pouvait passer sur le quadrilatère Sainte-Catherine, Berry, Maisonneuve et je ne sais plus lequel, là, devant la
mais les manifestants, ils n'ont pas commis un acte, pas de perturbation et absolument rien du tout.
Non, je me rappelle même pas s'il y avait des slogans qui étaient scandés. C'était vraiment juste des gens qui étaient là et ça discutait entre eux calmement. On ne pouvait même pas dire qu'il y avait une manifestation.
Alors, on serre tout le monde, c'est ça?
Il n'y avait pas encore de resserrement. Vraiment, là, c'est le quadrilatère qui était bouclé, mais il n'y avait pas encore de pression policière comme telle.
Mais est-ce que les gens peuvent sortir et rentrer?
Non,
rentrer, c'est fini, là. Alors, les qui veulent participer, ils ne peuvent pas. Et celles et ceux qui veulent sortir, ils ne peuvent pas non plus.
Exactement.
Alors, vous appelez ça quoi?
Ben, c'est une prise d'otage.
Voilà.
Mais à ce moment-là, c'est une prise d'otage, je considérais subtile, en vertu de ce qui va arriver par la suite.
Voilà.
Donc, à 18h40... Donc, ça fait 40 minutes que la manifestation est déclarée illégale et que les manifestants sont sur le territoire délimité par le parc Émilie-Gamelin en tant que tel et qu'il se passe pas grand-chose et il fait froid. Et le quadrilatère comme tel, il est bouclé. Donc, on a un circuit fermé pour nous, pratiquement. Donc, on se dit, on va marcher. Tant qu'on va marcher, on va vouloir manifester, on va marcher. Et c'était un peu vraiment ironique. On parlait d'humour tantôt. La situation était vraiment humoristique, ironique.
Ouais.
Parce qu'on faisait le tour du parc dans la rue avec des garde-fous policiers, si on veut, à chaque coin du quadrilatère. On a fait à peu près un tour et demi du parc comme ça. À un moment donné, on a viré la direction. Et à ce moment-là, c'est ça qui a servi de prétexte probablement. Ça a duré peut-être en tout 5 minutes, la marche, la manifestation comme telle. À ce moment-là, c'est les anti-émeutes qui se sont déclenchés, qui ont chargé la foule dans toutes les directions simultanément. Donc, il y avait des gens qui disaient « Ah, il faut courir par là-bas, ils s'en reviennent en arrière nous autres. » Mais non, on voyait de l'autre bord qui s'en venait. Donc, c'était le déclenchement de la souricière. Pour donner vraiment, regrouper tous les manifestants dans un groupe compact. Maintenu par un cordon policier là, en anti-émeute avec les boucliers et tout ça, avec tout un autre dispositif policier en arrière-plan là, qui se met en place. Là, vraiment, on était dans une zone une zone de contrôle militaire, carrément. Là.
Oui. On parle de séquestration, quoi.
Séquestration.
Oui.
Donc, le déclenchement, ça serait fait autour de 18h40-45. Là, moi, j'avais pas l'heure, mais je me fie un peu à ce que j'ai vu dans les médias. À 19h08, selon ce qui est marqué dans les médias et sur mon constat d'infraction, il y a eu une signification qui aurait été faite.
Oui.
Probablement, selon mon souvenir, je pense qu'il y avait reproclamé que la manifestation était illégale.
Oui.
Je me rappelle pas. Peut-être qu'ils nous ont dit qu'on a été interpellés. Je me rappelle pas vraiment. On a passé... Moi, j'ai passé... J'étais dans les derniers à quitter la souricière. J'ai passé deux heures à l'extérieur.
Parce que tous ceux qui ils ont participé, ils ont reçu une contravention.
Oui, absolument.
My God. Oui, oui. OK.
Même, il y avait des gens de la presse. Je sais pas s'ils ont eu reçu le...
Non.
Ils l'ont probablement pas reçu, mais ils sont fait prendre à l'intérieur de la souricière et
ils ont été détenus.
Mais Adam, vous étiez là, OK? Vous étiez là. Pensez-vous que même si les manifestants, ils ont, à la dernière minute, parce qu'ils ont le droit jusqu'à la dernière minute de donner leur itinéraire, pensez-vous que c'était pas déjà tout planifié, même s'ils vont donner l'itinéraire, ça ne sert à rien, parce que c'était planifié
c'était
d'avance.
C'était planifié d'avance. Et là.
L'ordre était donné d'avance, c'est ça?
L'ordre était donné d'avance, c'était prémédité. Là, donner un itinéraire ou non, quand que le quadrilatère est bouclé, ça devient un peu ridicule, un peu superflu.
Ouais.
Là, c'est vraiment dire, on joue sur les mots, dire « Ah! »
Alors, vous avez reçu une contravention.
J'ai reçu une contravention, dont la légalité comme elle-même de la contravention est fortement douteuse.
Ouais.
Comme M. Forget disait tantôt, les policiers sont censés faire respecter la loi, mais ça ne veut pas dire... qu'eux-mêmes la respectent quand ils la font appliquer.
Oui.
Et ça inclut la contravention en tant que telle. Et je ne parle même pas du règlement P6. Là.
Mm-hmm. Alors, de manière générale. Bon, je revenais maintenant à M. Fourger.
Oui.
Vous avez... j'imagine que vous n'avez pas participé. J'ai compris que vous n'avez pas participé à cette manifestation.
Non.
Mais peut-être à d'autres manifestations avant. Donc,
non, même pas. Moi, je suis condamné à manifester à l'arrière dans mon...
Mais c'est bien. Vous faites votre travail comme il faut. Maintenant, l'accumulation de toutes ces manifestations-là peut arriver le 5 avril. Hein, ça peut être une accumulation. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, monsieur?
Il y a beaucoup de notions que j'ai envie de vous donner ici.
Oui.
Premièrement, au niveau de la légalité du règlement P6, les dispositions qui régissent P6 sont retrouvées aussi dans le code criminel. Et un des défis que P6 va avoir, ça va être d'expliquer à la Cour pourquoi est-ce qu'on appliquerait un règlement municipal plutôt que le code criminel. Puis dans le code criminel, c'est les articles 63 et suivants qui disent qu'un attroupement devient illégal si on a des raisons de croire que les gens vont troubler la paix ou s'ils sont en train de troubler la paix. Alors là, on peut déclarer l'attroupement illégal. Et il y a une autre étape plus loin où on peut déclarer une émeute.
Mmh.
Et les policiers disposent de pouvoirs spéciaux quand il s'agit de réprimer une émeute. Mais dans les 140-150 jours de manifestation qu'on a eu depuis l'an passé, à ma connaissance, il n'y a pas un attroupement qui a été proclamé émeute légalement. Pas à ma connaissance.
Exactement, oui.
Autrement dit, il faut qu'on regarde la force utilisée dans les manifestations comme la force qui est utilisée tous les jours. Okay? On n'a pas l'excuse de l'émeute pour justifier les sorties.
Je dirais même le comportement policier tente de provoquer l'émeute pour se donner le prétexte et ils ne réussissent pas.
Non, c'est ça,
les manifestants sont suffisamment de bonne volonté pour ne pas tomber dans ce piège-là. Même le 5 avril, pendant la souricière, là, ça a viré presque en partie.
Mm-hmm.
On s'est fait une pyramide humaine. On a lancé un défi international aux autres manifestants. Donc, on a tourné ça un peu à la dérision, le temps d'attendre notre ticket.
Mais ça, je trouve que c'est la façon de réagir.
Absolument. Il faut tomber dans le piège.
Il faut absolument... Ce combat-là est un combat du cerveau contre les muscles.
Oui, oui, tout à fait.
Et il faut falloir que le cerveau gagne. Et d'ailleurs, la meilleure...
Vous avez donné des solutions aussi.
Oui,
hein,
la meilleure façon de combattre P6, c'est d'exploiter... Les failles dans le système. Il y a dans la Charte des droits des dispositions. Tu as l'habeas corpus, qui est une disposition que tu demandes aux policiers quand tu es arrêté ou détenu de te présenter devant un juge pour valider la légitimité de ton arrestation, de ta détention. Tu as droit à un coup de téléphone si tu es détenu. Alors, imaginez, là, OK, la police de Montréal prévoit des autobus, ils font une souricière, etc., ils ont 500 manifestants. Si les 500 manifestants disent « Non, moi, je te donne pas mon identité, le clown, donne-moi mon coup de fil », il faut qu'ils trouvent les moyens de donner 500 coups de fil.
Ça, c'est le minimum, ça.
Minimum.
Ouais.
Privé. Mm-hmm. Oubliez-le pas, là, c'est une conversation qui est privée. Fait qu'il va falloir qu'ils dispatchent des téléphones, tu sais. Il va falloir engendrer tout un mécanisme. Là, après ça, les 500 qui parlent à leurs avocats disent, bon, mais finalement, je réclame la habeas corpus. Faut qu'on prenne ces 500 manifestants-là pour qu'on les amène devant un juge le lendemain. Puis là, le juge, on va lui dire, ben, écoute, moi, je conteste la légitimité de P6. Je veux pas donner mon identité. Qu'est-ce qu'on fait? Et ma main au feu que le juge va faire comme, ben, t'as tout à fait raison. Oui. Et là, après ça, c'est que t'as utilisé le système contre le système. Puis là, le lendemain, la police, elle peut plus rien faire. Elle peut pas reprendre cette stratégie-là. Plus loin que ça encore.
Je l'ai testé, ça. D'ailleurs, je vais y revenir. Je vais te laisser aller.
Okay.
Je vais...
Parfait. Oui. Plus loin que ça encore, dans le code de procédure pénale, ce qui donne aux policiers le pouvoir d'identifier quelqu'un dans le cas de P6.
Oui.
OK? Le pouvoir qu'ils ont, c'est de t'identifier pour t'émettre un constat d'infraction.
Exactement.
Si on avait 500 manifestants qui
refusent,
pris, non, mais au contraire, qui collaborent. 500 manifestants qui disent, bon, mais regarde, moi, je t'ai fait une photocopie de mon permis de conduire et ma carte d'assurance maladie.
Voilà.
Je te donne la photocopie. Pose-moi une question que tu veux. Mais à partir du moment où je me suis identifié positivement, il te reste quoi comme pouvoir pour me détenir? Et la réponse, c'est à rien du tout.
Parce que la contravention, il pourrait l'envoyer par le courrier.
Exactement.
À partir de ce moment-là, c'est sûr.
Exactement. Et c'est exactement le point.
Parce qu'il n'y a pas de crime qui a été commis. Il n'y a pas de cause raisonnable pour détenir et arrêter quelqu'un pendant...
Vous parlez des deux heures que vous êtes détenu.
Oui, deux heures à l'extérieur, maintenu de force contre
le traitement aussi. Hein.
D'après moi, l'histoire...
Et je leur ai clairement mentionné que c'était fait contre mon consentement, parce qu'il y a une question de consentement qui rentre là-dedans aussi.
Ouais, ouais.
D'après moi, l'histoire va juger que ces détentions-là sont arbitraires.
Ben, tout à fait.
C'est ma prétention présentement. On revient à P6 encore. J'ai une nuance sur quelque chose. Pas tellement que je pense que c'est un abus comme tel. En tout cas, oui, c'en est un, mais je pense que c'est plus de l'entrapment. Ça revêt plus le look de l'entrapment.
Le piège.
Le piège.
C'est ça.
Parce que même dans le règlement P6, l'article 4 dit que quand un être humain est déclaré illégal, les gens doivent se disperser. Il y a un principe inféré que si tu dis, puis c'est aussi couvert dans le code criminel, si les gens doivent se disperser, il faut que tu leur donnes la chance de disperser. C'est correct que tu fasses trois murs, mais laisse une ouverture. T'sais? Là, les gens se dispersent, puis sauf que, puis s'ils se dispersent pas, tu fermes le quatrième mur, puis ça, c'est une procédure.
Mais à cet effet-là, vendredi dernier, ils ont un peu joué un peu sur ce terrain-là. Comme j'ai dit, ils ont bloqué les quatre coins. Mm-hmm. On a commencé à tourner autour du parc. À un moment donné, au deuxième tour, ils ont ouvert un des coins sur Maisonneuve.
Pour laisser...
Par laquelle on aurait pu... Le cortège aurait pu sortir.
Ouais.
Par contre, précédemment, quand ils ont déclaré la manifestation illégale à 18h, ils nous ont clairement indiqué que si on était pour prendre la voie publique, il fallait le faire dans le sens du trafic. OK?
Ouais.
Et la voie qu'ils nous ont ouverte sur Maisonneuve, si on l'aurait emprunté, on aurait été à l'envers du sens du trafic. Ils nous placent dans une double contrainte où est-ce que peu importe ce qu'on fait, on est coupable.
Mais Adam, s'ils l'ont déclaré illégal, ils vont nous interdire.
Oh,
oui, c'est
un piège.
De toute façon, c'est ça. Anyway, je suis convaincu que les tribunaux vont renverser tous les constats d'infraction relativement à P6.
Oui,
c'est ce qui m'agace dans cette chose-là, c'est que les policiers donnent des constats sachant très bien qu'ils vont se faire virer dans leur short. Pis,
absolument. Puis on leur dit en pleine face en plus.
Ben oui, mais eux autres sont convaincus qu'ils font quelque chose de bien parce que l'effet coercitif est là.
Mm-hmm.
Puis l'ironie là-dedans, tu sais, il y a beaucoup de gens que, quand on lit les blogs de Martineau puis de Lapierre, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, sur le masque, s'ils se masquent, c'est qu'ils ont de quoi à cacher. Je m'excuse, là, mais les personnes qui sont les plus susceptibles de vouloir se masquer dans une manifestation présentement, ce seraient des policiers. Tu sais, on parlait tantôt des policiers qui endosseraient la cause.
Oui, oui.
Eux autres, ils veulent pas se créer ce genre de problème-là. Même, on parle, mettons, d'un policier de la Sûreté du Québec qui est à B comme O, mais qui est plus sensibilisé à ce qui se passe et veut venir manifester.
Exactement, c'est un point. Oui,
c'est d'ailleurs, comme je disais, les manifestants ne sont plus masqués présentement, mais les policiers, eux, c'est des gros cols roulés jusqu'au nez, puis les lunettes de soleil. Ça, c'est derrière leur grosse vide de plastique. Donc, vraiment, oui, je ne te dis pas que c'est généralisé. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise qui sont plus ouvertes par rapport au rôle qu'ils occupent parce qu'ils ont une responsabilité à le faire. Mais certaines personnes, oui, on voit qu'il y a un malaise là, face à ça. Oui,
mais tu vous parlais du malaise aussi. Attends, n'oublie pas que tous les manifestants sont presque filmés, puis sont des photos et tout. Donc, les gens qui sont insécures. Donc, s'ils portent un masque, parce qu'ils savent que derrière ça, il y a... Vous comprenez?
Mais on ne parle pas de manifestants, mais si on parle de policiers qui se...
Oui, je comprends, mais je dis même...
Parce qu'eux aussi se font filmer, d'ailleurs. C'est ça, là, on a un...
Oui, mais il faut voir le...
On a une sorte de guerre qui joue à coups d'armes électroniques, si on veut, sur le terrain. Là, c'est qui filme qui, mais c'est...
Mais ça, c'est
la collecte de preuves.
C'est ce qui a changé dans les dernières années.
Absolument, oui.
Moi, je trouve ça fantastique, la révolution du iPhone, là. Mm-hmm. Je trouve ça fantastique.
Ça a apporté beaucoup de... Oui, oui.
Puis ça va changer notre société.
Oui, oui.
Parce que, je reviens avec un autre argument. Les gens qui croient là, que c'est vrai qu'il y a eu de la casse.
Oui.
Sur l'île de Montréal, vous pensez qu'il y a combien de caméras de sécurité? Il y en a sur tous les coins de rue, des caméras de surveillance. Il y en a sur les routes. Il y en a dans à peu près tous les commerces. Mm-hmm. Les policiers filment les manifestations. En un an et quart, on n'a pas eu pas une image d'un kid qui pichait une roche dans une vitre.
Exactement.
Mais des images de police qui poivent du monde, qui donnent des coups de matraque, qui bousculent.
Ça circule partout.
Ça, on en a tout plein.
En masse.
Fait que moi, c'est un constat qui est quand même sérieux ici, là. Mm. Je veux dire, tu sais, ma grand-mère, ma grand-tante, là, qui croient qu'est-ce que TVA dit, puis qu'est-ce que Radio-Canada dit, puis là, oui, mais René, il y a de la casse, puis non, mais attends un peu, là. Il n'y a personne, pas une personne qui a été mise en accusation. Je m'excuse, mais quand tu crées une crise sociale, tu as la responsabilité en bout de ligne de produire les méchants.
Je ne sais plus qui avait écrit ça là, dans ses commentaires. Là. Quelqu'un dans un journal, là, un commentateur patenté qui parlait de manifestants qui coupaient les tendons d'Achille des chevaux. C'est complètement absurde. Ça correspond à aucune situation qui est arrivée sur le terrain.
Puis si c'était arrivé, cette personne-là aurait été arrêtée. Oui. Elle serait en procès aujourd'hui. Là. C'est grave couper le tendon d'un cheval.
Mais sauf qu'on implante des images dans la tête des gens à travers les médias pour justement les inciter à rester chez eux puis à ne pas manifester parce que c'est dangereux, c'est des casseurs, c'est des maniaques qui torturent les animaux. C'est rendu n'importe quoi, c'est absurde. Là. On va là, on regarde les vidéos. D'ailleurs, il y a Moïse Marcoux-Chabot qui, dès le lendemain, il a écrit un article sur son blog avec une vidéo, un documentaire de 15 minutes sur les événements du 5 avril qui s'intitule « Autour d'une souricière », manif du 5 avril 2013, puis... On les voit, là, les gens là, sont calmes, sont pacifiques. Là-dedans, t'as des gens de 40, 50, 70 ans. T'as des familles avec des bébés en poussette.
Exactement.
Et après ça, on voit les policiers vraiment qui ont des comportements brutaux, même envers... Des parents avec des enfants en poussette, des enfants en bas âge, c'est complètement
inacceptable. Forger des comportements brutaux, là, je prends le mot de Adam. Est-ce que c'est tout ce traitement-là, est-ce qu'il ne va pas décourager à un moment donné la population de manifester? Ou bien vous voyez plutôt dans la nouvelle génération est porteuse d'espoir?
La nouvelle génération, tant qu'à moi, est très porteuse d'espoir.
Oui.
Très, très, très porteuse d'espoir. Je pense sincèrement qu'on va être obligé en tant que société, là, on va être obligé de porter ces questions-là devant nos tribunaux pour les trancher. Vous souvenez-vous de la question boycott versus grève?
Oui.
Bon, premièrement, ça prend un être insidieux et particulièrement malsain pour traiter avec des grévistes en 2005, puis en 2012 dire « Ah non, le droit de grève n'existe pas ». Ça, premièrement. Deuxièmement, c'est deux notions de droit qui s'opposent. Tout le monde avait raison. Ceux qui disaient que les étudiants n'avaient pas le droit de grève, ils avaient raison. Ceux qui disaient que les étudiants avaient le droit de grève avaient aussi raison.
Oui, tout à fait.
Parce que le droit de grève existe depuis 1958. C'était la 10e grève et l'usage confirme l'existence du droit. Sauf que cette question-là doit être présentée devant nos tribunaux parce que c'est nos tribunaux qui doivent décider dans quelle mesure on va restreindre un droit ou pas. Bon, la même chose avec les policiers qui débordent. Je suis pas intéressé par la répression. Je suis pas intéressé qu'ils perdent leur job. Je suis pas intéressé qu'ils soient punis. Mais je suis intéressé qu'un comité de déontologie dise « ça, c'est pas correct » pour que ça se reproduise plus. Je suis intéressé par l'éducation, on parle souvent...
La formation continue.
La formation.
C'est un buzzword à la mode. Là,
exactement.
Si on veut, mais...
On parle souvent là, au niveau des criminels, par exemple. On parle de réhabilitation. De réinsertion sociale. Bon, mais pour les policiers, ça va être la même chose. Ceux qui vont avoir été reconnus coupables, écoute, il y en a une série assez impressionnante de gestes que j'ai vus sur Internet, là, que je me dis, mon Dieu, mais ça n'a pas de maudit bon sens. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un policier qui tire une balle de caoutchouc sur quelqu'un, puis il dit, t'es un fesse, mon calice!
Ouais,
ça vous dit quelque chose?
Ah, ouais, ouais.
Moi, les choses que je remarque de ça, ça et que peu de monde remarque, c'est s'il tire d'un fesse, ça veut dire que le manifestant se poussait.
Il est de dos.
Il est de dos.
Ouais.
Même dans le Far West, tu ne tirais pas quelqu'un dans le dos.
C'est honteux. Maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, M. Forger, c'est sûr et certain qu'on va essayer de vous inviter sur ce plateau pour consacrer une émission exclusivement pour vous, mais j'aimerais bien savoir, avec tout le sérieux que vous avez,
hein,
vous êtes quelqu'un de sérieux ici, qu'est-ce qui vous a amené à être humoriste en même temps? Est-ce que c'est une réponse aussi de votre part pour essayer de... C'est une force aussi?
Tout à fait. Ouais. L'humour est une forme d'expression, c'est une spécialité.
Vous êtes humoriste, hein? Il faut,
oui, tout à fait. J'ai fait l'École nationale de l'humour, j'ai travaillé pour les grandes gueules. Là, je défends mes propres gags. L'humour est une forme d'expression très populaire au Québec. Les humoristes ont beaucoup de crédibilité. Et pour moi, c'était une façon justement de faire passer certains messages.
Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne prend pas au sérieux des fois les
Tout à fait, mais tu sais, par exemple, Guy Nantel, je vous donne un exemple, qui fait beaucoup d'humour sur l'actualité. On rit de ses blagues, mais il y a une prise de conscience. Les apartistes aussi, on rit de leur gag, mais il y a une prise de conscience. Puis c'est pas nécessaire de toujours avoir un gag orienté politiquement pour être touchant, là. Il y a une prise de conscience qui faisait... Même quand Patrick Huard faisait son gag avec la porte patio avec la petite bulle d'air, là, ou quand il disait « Femme ta gueule ». Le sketch « Femme ta gueule », il est vieux de 20-25 ans, mais il est encore aujourd'hui actuel. Puis aujourd'hui, quand tu es dans une relation de couple, à un moment donné, tu fais comme « Mais mon Dieu, c'est encore là ». L'humour, c'est une façon de sortir.
Mais c'est le personnage aussi qui est là. Par exemple, vous, on sait... moi, si je vous vois, par exemple, devant moi, dans un rôle ou dans un sketch, je sais que derrière vous, il y a vraiment un engagement. Vous comprenez? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Tout à fait. Mais tu sais, être pertinent toujours, c'est un choix. Moi, je choisis d'être pertinent juste quand ça me tente. Quand ça me tente pas, je compte des blagues. Mais tu sais, puis au niveau du...
Si j'ai bien compris, c'est que l'humour, un peu, c'est une fonction sociale de désamorcer un malaise.
Oui.
Qu'il peut y avoir. Il y a un malaise dans la pièce, on ne sait pas comment le sortir. On veut le sortir sous la forme d'une blague.
Mais comment ridiculiser le ridicule?
Il représente, oui, un peu, c'est ça, exactement.
Tout à fait. Puis, tu sais, le bye-bye, entre autres, est un bon exemple. On revient sur tous les événements de l'année, on en fait des blagues, mais ça reste qu'il y a des gens qui n'écoutent pas la télévision, il y a des gens qui n'écoutent pas les nouvelles, il y a des gens qui ne lisent pas les journaux. Oui. Et le seul contact qu'ils ont avec l'actualité, c'est la variété. Bien, en quelque part, les humoristes, ce sont des véhicules. Puis moi, à un moment donné, j'avais le choix. Là. Je finissais mon droit, je faisais l'école de l'humour. J'avais le choix entre gagner ma vie à me chicaner pour quelqu'un d'autre ou gagner ma vie à compter des blagues. Je pense que j'ai fait le bon choix.
C'est excellent. Je sais que vous êtes quand même, vous avez cette flexibilité de faire beaucoup de choses.
Oui.
Ne pensez pas un jour revenir à la police.
Et je pourrais techniquement revenir dans la police. Le problème que je vois présentement, c'est que quand je vais être en entrevue et qu'on va me demander tu fais quoi, je vais répondre honnêtement. Puis quand je vais dire à mon éventuel employeur, ben le ticket, je le donnerai pas. Je le place, lui, dans une position...
Il ne le donnerait pas parce qu'il est pas justifié.
Il va se passer deux choses. Soit qu'il va dire « Wow, j'ai enfin quelqu'un qui pense avec sa propre tête », ou il va faire « Ben, j'ai pas besoin d'une tête dure ». Il y a une ironie ici que je suis effectivement une tête de cochon.
Alors, si demain, M. Parrain, il vous appelle pour vous engager dans le...
S'il m'appelle pour m'engager, je vais dire oui, puis je vais rester moi-même, puis je vais essayer de changer les choses par en dedans. Mais j'y crois pas beaucoup qu'il m'appellerait.
Mais on souhaite qu'il va avoir, parce que vous êtes qu'un élément pour nous très essentiel, je pense, pour le corps policier. Vous êtes un exemple, vous comprenez ça ce que je dis. Richard, un dernier mot, parce que je passerai le dernier mot à M.
Oui, ben, il ne reste pas beaucoup de temps, j'ai des choses, je voulais revenir dessus.
On ne peut pas dire tout, malheureusement.
On a parlé d'habeas corpus tantôt, ou de consentir à s'identifier, ou on a parlé de ça tantôt. Vendredi passé, j'ai fait mention de l'habeas corpus. Je pense qu'il n'y a aucun policier vraiment qui a réagi. C'est plus un manifestant qui m'a expliqué que oui, je pourrais l'avoir techniquement, mais je passerais la fin de semaine en prison avant de voir le juge lundi matin.
Tout à fait.
Bon, ça m'intéressait plus ou moins. Officiellement, j'ai refusé de m'identifier.
Oui.
Ça aussi, il aurait fallu encore, je pense, je me suis identifié, mais sous la menace et la contrainte. Et ça, je l'ai clairement mentionné au moment de m'identifier. Donc, c'est technicalité, mais ça va me servir pour contester l'étiquette par la suite.
Oui.
Présentement, il y a une comment je dirais, une façon officielle de contester le ticket qui passe sur Internet sur les manifestants.
Vous avez parlé de collectivité.
Oui, non, tu vas trop loin. Laisse-moi finir, s'il te plaît. La méthode étant que quand on retourne le ticket dans les 30 jours, on demande la divulgation complète de la preuve.
Oui.
Et puisqu'il n'y a pas de preuve, après un an, il y a abandon des procédures. Donc, ça revient à ce que monsieur disait tantôt.
Oui.
Moi, parallèlement de mon côté, j'ai publié hier un article qui s'appelle « Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer ».
Sur votre blog, hein?
Sur mon blog. Oui. Tapez ce titre-là dans Google, vous allez le retrouver tout de suite. Mon blog, c'est Démocratie 2.0. J'ai 800 visites sur cet article-là seulement depuis hier matin. Et c'est pour parvenir à une entente hors cours pour faire sauter l'étiquette.
Voilà, voilà. Parfait. Mais maintenant, le dernier mot peut-être qui restera à notre invité, René Forger. Monsieur René Forger, vous êtes là. Quel est le message que vous pouvez passer? Vous avez déjà passé des messages et des messages, mais verbalement comme ça, à vive voix, quel est le message que vous passez à nos auditeurs qui vous écoutent ce matin?
Il faut continuer le combat. Il faut continuer de chercher à promouvoir l'exceptionnel. Il faut continuer de chercher à gagner le cerveau contre la force. Oui. C'est la société qu'on veut. Présentement, on est en danger de la perdre.
Oui.
Il faut juste qu'on continue à... Les manifestants, moi, je les admire beaucoup parce que...
Exactement, c'est la force qui...
C'est leur force.
C'est le compte courant. Hein, c'est... Oui.
Et je vous dirais que le meilleur outil contre... Le système qui va tout croche présentement, ouais. C'est le système lui-même. Mm-hmm. Pour reprendre ce que tu disais, Adam, tantôt...
C'est-à-dire la crise politique?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as 1 million de tickets sont donnés au Québec, tickets de la route, tickets de parking, tickets de... ce million de tickets-là est contesté systématiquement, si la population du Québec s'enlève les doigts de te donner puis conteste systématiquement tous les tickets...
Le système est engorgé.
Ça va bloquer dans le coude, les délais vont devenir des délais de 5-6 ans, ça va être déclaré invalide par la charte.
Et ça, c'est les conseils que vous donnez?
Ben oui. Moi,
ça rejoint le mouvement que Mme Brousseau, notre invitée la semaine dernière, elle voulait partir aussi. Elle voulait partir un mouvement pour.
Oui, M. Forger va aller plus loin que ça. Hein?
Non, mais c'est pas aller plus loin, c'est en ligne directe, c'est en continuation.
Alors c'est le message.
C'en est une solution. C'est de bloquer le système par le système. Quand tu te fais intercepter par un policier, tu as le droit de garder le silence.
Oui.
Bon, l'habeas corpus, etc. S'il y en a 500 jeunes qui sont prêts à passer une nuit ou une fin de semaine en prison, là,
il faut qu'il aide la cellule.
Mais c'est ça. Ça prend 500 cellules, ça prend 500 repas, ça prend 500 transports.
Oui.
Tu viens de confronter le système à sa propre faiblesse. Et là, les boss vont faire, on va vous relâcher, on va vous l'envoyer par la poste, l'étiquette. Puis tu fais comme, non, moi, je t'ai dit, je vais aller voir un juge.
Ça veut dire quelqu'un qui brûle un stop.
Je parlais pour les souricières. Sauf que quelqu'un qui brûle un stop, quand même que tu le sais dans ton cœur que tu l'as brûlé, stop, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que si tu le payes, le 100$, il y a 40$ qui s'en va dans les poches de la mafia.
Ça, c'est grave. Voilà.
Conteste ton ticket.
Alors que votre propre argent, l'argent des contribuables, s'en va vers dans les poches, j'ai pas envie de dire.
Des politiciens mafieux, puis des.
Dans mon article hier, j'ai atteint une entente hors cours avec la Cour municipale de Montréal dans laquelle elle admet qu'elle a un comportement frauduleux.
Mon cher Adam, voilà, donc nous arrivons, chers auditrices, chers auditeurs, à cette émission, et c'est à votre tour, donc, chers auditeurs, de réfléchir sur cet enjeu fondamental de société. Permettez-moi de remercier à mon nom et à votre nom, Monsieur René Forger, pour sa participation et saluer son courage et sa détermination. Merci à mon collègue Adam Richard, parce que toujours il me dit c'est Richard Adam, alors je dis Adam Richard pour les précisions. À Madame Suzanne Chartrand, on dit merci, un grand merci pour nous rassurer la technique du son. Donc merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre fidélité à cette émission. Et sur ça, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Au revoir.
Dans la rage des événements, quand vous surveillez une maison, les armes à la main. Si vous voyez quelque chose qui court, tirez. Si vous voyez quelque chose qui tire, courez. Une question maintenant un peu plus technique, là. Avec quoi le policier nettoie-t-il son revolver?
Avec du pledge. Au citron.
Une rencontre unique entre le Québec et l'Argentine. Vendredi 26 avril, c'est le temps de Chakazam Gotan, le grand concert d'ouverture du festival MMM 2013. Des artistes argentins et québécois vous présentent les sons de Chacarera, Zamba et Milonga, chacun poussant le chant, le rythme et la magie. Me habías prometido... La chanteuse Irem Bechter et son quintet seront rejoints par Franco Luciani, harmoniciste internationalement reconnu, et par les virtuoses montréalais de Darmo. Vendredi 26 avril à 20h au Théâtre Plaza, le concert Chakazam Gotan, une véritable fusion de genre et de culture. Une présentation de MMM Musique Multimontréal. Pour info, festivalmmm.ca. Prévente 514-856-3787. Peu m'importe
tes demandes. Le Festival international de cinéma Vue d'Afrique vient dévoiler au public montréalais le meilleur de la culture africaine et créole. Du 27 avril au 5 mai, tous seront invités à se laisser charmer par cet événement hors du commun. Le festival présentera en exclusivité les toutes dernières créations de leurs surprenants cinéastes au cinéma excentrice. Vue d'Afrique offre la culture d'ailleurs et rapproche les gens de toute origine. Le cinéma africain et créole émerveillera Montréal, Québec et Ottawa. Suivez-nous sur Facebook et Twitter ou encore au www.vudafrique.org. Bon festival.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip hop, hagamofi, mala, hango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous,